Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Paul Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le journal de ce mercredi 12 juillet. Découpage électoral, opération de cartographie électorale, les missions terrain de cartographie sont faites pour actualiser les lieux d'enrôlement et de vote et n'ont rien à voir avec le découpage électoral. C'est ce qu'a annoncé hier mardi le président de la commission électorale indépendante. 35 organisations de la société civile ont plaidé pour la signature du décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral lors d'une conférence tenue hier mardi à Abidjan. Après la page internationale où un rapport de la Banque mondiale dresse les projections économiques concernant l'Afrique subsaharienne qui sont revues à la baisse, la page sport sera relative aux résultats des matchs d'hier mardi et nous aurons ensuite un dossier d'actualité dans lequel Jean-Claude Mabéa s'intéressera aux préparatifs de la fête de la Tabaski 2024. Et puis en fin d'édition, l'invité de la rédaction de ce jour, le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao se prononcera sur les possibles sujets que pourrait aborder le chef de l'État Alassane Ouattara lors de son allocution du 18 juillet prochain devant le Congrès. Il sera en compagnie de Francis Cassis. Voilà pour l'essentiel. Découpage électoral, opération de cartographie électorale, le président de la commission électorale indépendante a fait la lumière sur cette opération qui suscite des interrogations au sein des partis politiques de l'opposition et certaines organisations de la société civile. Ibrahim Kouibier Koulibaly était à l'invité de la télévision nationale hier mardi 11 juin 2024.
Contrairement au découpage administratif, le découpage électoral a une vocation électorale. Il s'agit de subdiviser le territoire en circonscription électorale pour y effectuer les opérations électorales. Première chose, il faut rattacher un électeur à une circonscription. Et deuxième, il faut donner un poids à la circonscription électorale. D'ailleurs, il est bon de préciser qu'il n'y a que l'élection des parlementaires qui requiert un découpage électoral. Parce que l'élection du président de la République, c'est qu'une seule circonscription, c'est toute l'étendue du territoire. La loi dit que c'est la commission électorale qui prend l'initiative du découpage électoral. Alors, quand on va sur le terrain pour constituer le répertoire de nos lieux de vote, on dit qu'on s'en va faire un découpage électoral. Mais on ne fait pas un découpage électoral comme ça. Parce qu'il y a des lieux que nous utilisons qu'on appelle les lieux publics. C'est pour aller voir si les lieux où on va faire l'enrôlement, qui se trouvent être les lieux qui vont être finalement des bureaux de vote, si ces lieux-là sont fonctionnels. Avant nos opérations électorales, si oui, on les garde. Sinon, on essaie de trouver des palliatifs. D'où l'intérêt de faire une mission de cartographie sur le terrain qui n'a rien à voir avec le découpage, encore moins le découpage électoral.
Ibrahim Kouibier Koulibaly, président de la commission électorale indépendante. À Bouna, 50 leaders issus des organisations des jeunes et des femmes dans la région de Bounkani ont eu leurs compétences renforcées sur les procédures de constitution d'associations et d'entreprises ONG, les flamboyants de Doropo. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet à la prévention des crises dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire. Cette activité a été financée par le PNUD en accord avec le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. La correspondance de Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
Il s'agira de parvenir à établir une meilleure cartographie de ces associations dans le nouveau contexte sécuritaire du Nord. Alexis Balou, chef de projet de l'ONG Les Flamboyants de Doropo.
Pour que ces groupements puissent se formaliser et que l'autorité puisse établir une cartographie des différentes associations et groupements dans la région de Bounkani.
Des organisations statutaires qui pourront bénéficier des offres du programme social du gouvernement pour le Nord, estime Mme Ouattara Blakissa, venue de l'ancien.
Pour que l'État nous aide. Si on n'a pas les papiers, on ne peut pas trouver ce qu'on va demander à l'État.
Cela permettra aux jeunes et aux femmes de ne plus rester à la merci des groupes armés non étatiques qui opèrent de part et d'autre de la frontière ivoiro-burkinabé, estime Yaokouman de Koutouba.
Si nous sommes occupés, je pense que quelqu'un ne peut pas venir nous encore dérompu et de nous dire prenez des miettes et aller faire de n'importe quoi.
Et surtout pour éviter l'intrusion des extrémistes dans les organisations des jeunes et des femmes à cause de leur vulnérabilité, un des objectifs spécifiques du projet. Ouattara Nguetia est le directeur du programme de l'ONG Les Flamboyants de Dropo.
Réduit le risque d'activités illicites et de financement des groupes terroristes. Qui sont ceux avec qui on doit former l'association? Leur montrer les mécanismes aussi d'alerte précoce dans les communautés.
Ce projet trouve sa pertinence dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSGouv2 axé sur les solutions durables à la problématique des fragilités dans les zones frontalières du Nord. Jérôme Kwasi Kru, Bouna, Radio de la Paix.
L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, avec le soutien de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, organise depuis hier et ce jusqu'à aujourd'hui à Abidjan la conférence finale sur la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales. Élaborée en 2009 et conçue comme un processus de 15 ans à mettre en œuvre en plusieurs phases, cette seconde étape a été exécutée de 2021 à 2024. Enfin, le point avec Jean-Claude Mabéa.
Trois années après la mise en œuvre de la deuxième phase de la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales, elle a engendré des acquis indéniables selon le représentant résident de la FAO en Côte d'Ivoire, Ataïn Maïga.
La FAO a contribué à améliorer de façon significative les capacités statistiques agricoles des pays bénéficiaires. Certes, l'ensemble des besoins exprimés par les pays n'a pu être couvert durant cette deuxième phase. C'est pourquoi cette rencontre est l'occasion de lancer un plaidoyer pour la poursuite du programme en mettant l'accent sur les besoins non encore ou insuffisamment couverts.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières a réitéré son engagement aux côtés de tous les acteurs afin d'atteindre les résultats escomptés. Kobina Kwasi, Adjoumani.
Je saisis cette opportunité pour exprimer ma sincère reconnaissance à la FAO ainsi qu'à l'ensemble des partenaires pour leurs appuis et leurs contributions à l'amélioration du système statistique national en général et des statistiques liées à l'agriculture en particulier. Je voudrais réaffirmer notre engagement envers la coopération et le partenariat qui sont les fondements de notre succès commun.
Signalons que cette stratégie a été mise en œuvre dans 27 pays du monde.
Comme annoncé en titre, amélioration des politiques publiques sur les changements climatiques, il est important que le gouvernement s'active à signer le décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral pour un meilleur traitement des activités sur le littoral ivoirien et pour une gestion des effets liés à l'érosion côtière. Tel est le plaidoyer fait par la Convention de la société civile au travers du projet Benkadi lors d'une conférence de presse hier mardi à Abidjan. Les propos du chef de projet Benkadi en Côte d'Ivoire, Oscar Gagui.
Au jour d'aujourd'hui, le littoral ivoirien est l'objet de divers appétits. Vous avez sur le littoral différents acteurs. Vous avez le ministère de la Construction qui intervient sur le littoral, le ministère des Transports, le ministère des Ressources halieutiques. Donc chaque fois qu'il y a un problème sur le littoral, les populations que nous défendons, les populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les personnes en situation de handicap qui vivent sur ce littoral, ont des difficultés pour se faire entendre. Leur voix n'arrive pas à porter. Parce que quand il y a un souci, elles sont obligées soit d'aller à la mairie, chez le préfet, et chaque fois qu'ils arrivent dans un endroit précis, les gens leur répondent qu'ils ne sont pas responsables, qu'il y a tel autre acteur qui doit intervenir, ainsi de suite. Donc, ils ont affaire à plusieurs acteurs, et c'est difficile. Or, la loi a prévu, justement, la création de cette agence qui va coordonner la gestion, la protection du littoral. Et il n'y a que cette agence qui va donner toute autorisation d'exploitation d'un espace du littoral. L'année dernière, en août, on a vu avec les phénomènes des pluies, on a perdu près de 10 mètres de côte. Et vous avez vu ce que ça a causé comme dégâts. Et aujourd'hui encore, on crée encore ces phénomènes-là. Donc c'est aussi une façon de rappeler ces engagements-là à l'État, de dire attention, nous sommes dans une telle période, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce que ce n'est pas encore opportun, ce n'est pas utile de prendre ce décret? Et nous pensons que c'est important, parce que l'État doit le faire.
Oscar Gagui, chef de projet Benkadi en Côte d'Ivoire. La journée africaine de l'environnement a été célébrée le 5 juillet dernier, occasion choisie par l'ONG My Dream of Africa, For Africa, pardon, pour lancer le Festival africain de l'environnement. Une cérémonie de lancement qui s'est tenue au Centre national de floristique de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody et qui a rendu hommage au botaniste ivoirien Laurent Aké Assi. Le point avec Didier Blé.
Il n'existe pas encore de planète de rechange. La Terre est pour l'instant notre seule richesse et il faut en prendre soin. Andy Costa, président de l'ONG My Dream for Africa et initiateur de l'événement.
L'environnement est notre partage à tous. Et secondo, nous n'avons pas une planète de rechange. Et si nous ne préservons pas l'environnement ou, comme on le dit bien, l'acquis se préserve, demain, qu'est-ce que nous laissons en héritage à nos enfants? Nous faisons de l'éducation environnementale.
Professeur Marie Solange Thiébré est la directrice du Centre national de floristique. Elle revient sur les enjeux du festival.
Le Centre national de floristique, en 1964, c'était une jachère, une plantation de manioc. Et le professeur Aké Assi, qui a été dépêché ici pour pouvoir constituer ce centre, a pu planter de ses mains. Et aujourd'hui, 60 ans après, on se retrouve avec des arbres en plein centre d'Abidjan. Et c'est vraiment ça l'enjeu. Montrer qu'on peut protéger l'environnement si on s'en donne les moyens.
L'université Félix Houphouët-Boigny, à travers son président, se réjouit d'une telle initiative, professeur Balosier.
La question de l'environnement est une question cruciale pour la survie de la planète. Et l'université Félix Houphouët-Boigny dispose depuis donc de longues années, grâce au professeur Aké Assi Laurent, d'un jardin botanique, 10 hectares, où on trouve vraiment toutes sortes d'espèces. Très heureux qu'on puisse célébrer cette journée africaine au sein de ce jardin botanique.
Un des moments forts de cette cérémonie de lancement a été l'hommage rendu au professeur Laurent Aké Assi, pionnier de la botanique en Côte d'Ivoire. Un monument lui a été dédié au sein du centre de floristique. Le festival africain de l'environnement, quant à lui, se tiendra du 26 au 28 septembre 2024.
À l'initiative de la direction de la zone sud-ouest de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, il a été organisé le 7 juillet dernier à San Pedro, un atelier d'élaboration du plan d'opération 2024-2026 du parc national de Taï. Objectif de cet atelier, actualiser le plan de surveillance 2024-2026 du parc tout en faisant le bilan de 2021-2023. Des détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra.
Présenter le bilan de 2021-2023 et élaborer le plan d'opération 2024-2026, tel est l'objectif de cet atelier. Colonel Kone Drissa, représentant du directeur technique de l'EIPR, Office ivoirien des parcs et réserves.
Nous avons eu à faire d'abord le bilan du premier plan de 2021 à 2023. Il est ressorti de ce plan beaucoup de satisfaction. Cependant, il y a des insuffisances qu'on a pu noter. Le personnel, on a trouvé insuffisant. Il y a un certain nombre de matériel technique qu'il faut acquérir. Le plan de surveillance que nous venons d'établir va décliner toutes les activités qui seront liées à un programme clé, on appelle le programme de protection et de surveillance.
Le parc national de Taï, patrimoine mondial de l'UNESCO, mérite une bonne protection, selon le lieutenant-colonel Touré Joseph, coordonnateur de la brigade mobile en charge de la surveillance et de la sécurité du parc de Taï.
Le parc national de Taï regorge pas mal d'espèces emblématiques et les velléités d'agression sont énormes. Au cours des trois années, le bilan nous indique qu'il y a 301 personnes qui ont été interpellées. On a vu une recrudescence des indices d'agression liés à l'orpaillage. Et c'est en même temps un appel qu'on adresse à la population pour dire que le parc national de Taï a tous ses rudiments nécessaires pour faire face aux différentes velléités d'agression. Donc il doit se préserver de rentrer dans le parc en vue de l'agresser parce que c'est un bien commun à nous tous.
Et l'un des axes de préservation du parc est de motiver les auxiliaires villageois à une contribution à la surveillance du parc. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Les projections économiques concernant l'Afrique subsaharienne revues sont à la baisse. Est-ce la fin de la reprise post-Covid? C'est ce que laisse penser la nouvelle édition du rapport Perspective économique publié hier mardi par le groupe de la Banque mondiale. L'horizon reste séduisant, mais la route qui y mène est de plus en plus incertaine. L'aggravation du poids que font peser les dettes publiques sur les budgets des pays d'Afrique subsaharienne fait planer le doute sur leur capacité future de financement, sans oublier oublier la grande inconnue, l'inflation. D'autant plus que les tensions actuelles au Moyen-Orient pourraient amener une augmentation durable du coût de l'énergie, tirant les prix à la hausse. Les banques centrales du monde entier pourraient donc bien être contraintes de renoncer à certaines baisses de taux d'intérêt, ce qui constituerait indéniablement une épine dans le pied des États africains. Sport football, éliminatoire mondial 2026. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été tenus en échec par le Kenya hier après-midi sur le score de 0-0. Franck Essier et ses coéquipiers lâchent leur premier point dans ces éliminatoires, mais tiennent la tête du groupe F devant le Gabon. Didier Blé.
Au Bingu National Stadium de Lilongwe au Malawi, pour affronter le Kenya, les éléphants ont difficilement démarré la rencontre et pas toujours bien inspirés. C'est un peu plus de 11 actions offensives qui n'ont pas trouvé le chemin défilé. En revanche, les Kenyans se sont créés quelques occasions dangereuses, mais le portier ivoirien était dans un grand après-midi. C'est donc sur un score nul et vierge que l'arbitre mettra fin à la rencontre. Emers Faye et ses poulains ramènent un point de ce dernier déplacement. Et si le résultat n'est pas toujours satisfaisant, les champions d'Afrique gardent tout de même la tête du groupe F avec 10 points devant le Gabon, la Gambie, le Burundi et les Seychelles. Quelques résultats de cette quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2026. La RDC a battu le Togo 1-0, de même que le Sénégal face à la Mauritanie. Le Bénin a battu le Nigeria 2-1, un but partout entre l'Égypte et la Guinée-Bissau. La Sierra Leone et le Burkina Faso ont coupé la part en 2 partout. Le Ghana est venu à bout de la République centrafricaine 4-3 et puis match nul et vierge entre le Mali et Madagascar.
Place au dossier d'actualité pour cette année. La Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire le dimanche 15 juillet prochain et pour la foire de la Tabaski 2024. Le besoin national d'approvisionnement en bétail est estimé à 350 000 têtes, dont 139 153 moutons. 30 000 bœufs sont attendus pour le seul district d'Abidjan, a annoncé le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, lors d'une conférence de presse le lundi à Abidjan. Mais quel est le prix du bétail actuellement sur le marché? Où s'approvisionner? Jean-Claude Mabéa a visité le nouveau parc à bétail d'Adjamé et le marché de Port-Boué 2 à Yopougon. Il nous propose son dossier d'actualité.
Rencontré sur le nouveau site du parc à bétail d'Adjamé, Aboubacar Diarra, qui venait juste de payer son mouton, se prononce sur le prix.
Nous, on a quitté Akouma, c'est pour venir chercher un mouton ici. On a vu qu'il y avait largement différents de prix. Bon, celui-là, il est pris à 170 000. L'année dernière, j'avais pris ce genre de modèle-là, au moins à 130. Si c'est trop, 140 comme ça.
Les prix des bétails sont actuellement en hausse, a expliqué Aïdara Mohamed, revendeur de moutons à Aboubo.
Sincèrement, cette année, le prix est vraiment élevé. Les moutons qu'on pouvait payer à 200 000, aujourd'hui ça nous revient 250 000, 270 000.
Maïka Suleiman est vendeur de moutons sur le même site. Il donne les différents prix qu'il propose aux clients.
Les moutons actuellement là, à bas de 100 000 il n'y en a pas. 150, 200, 300 jusqu'à 400. Ça aujourd'hui dépasse les trop. Il y a les commerçants qui ont venu payer les parcs là, 100 000 et ils nous ont vendu ça à 200 000 aujourd'hui.
Voici quelques raisons de l'augmentation du prix du bétail avec Diko Mamadou, vendeur lui aussi de moutons.
Ici là, on paye à 160 avant qu'on décharge. Parc là, 200 000. Ça fait combien? 360 000. Les mamans qui ont été à Port-Boué à l'abattoir, un camion quand il vient, tout, 180 000. Ouaga, Abidjan, 10 000 on prend. Sans compter, terrain de route. Ça trop.
D'Agamé, nous nous sommes rendus au marché de moutons de Port-Boué 2 à Yopougon. Olivier Kouassi, commerçant et superviseur de ce site, parle de la disponibilité du bétail.
On a du bétail, mais vu ce qui s'est passé à Port-Boué 1, cette année, les prix sont un peu élevé. Les bons bétails, ça va de 100 000 jusqu'à 200, 300, 400.
Contrairement à l'année dernière, à la même période, les activités tournent en ce moment au ralenti, selon Massangé Kone, la secrétaire de ce marché, et Adamou Kouré, commerçant.
Présentement, l'année passée à l'air comme ça. Non, le pouvoir même était bien plein.
Vraiment, le mouton, ça ne sort pas comme l'année passée, franchement. Même les gens qu'ils ont pris, même ils ont venu choisir, c'est pour réserver seulement.
Le parc à bétail de Port-Boué a été délocalisé la semaine dernière à Adjamé. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui a animé une conférence de presse le lundi, tient à rassurer les commerçants et les consommateurs en ces termes. Sidi Timoko Touré.
Probablement, nous assistons
assisteront à l'ouverture des sites spécifiques de Trècheville, de Cocody, à Tekoubé, à Niamey, pour décongestionner le site principal d'Abdjamé, Williamsville, Cass.
Selon le ministre, le niveau d'approvisionnement actuel en bétail à la faveur de la Tabaski est estimé à 80%.
L'invité de la rédaction de ce jour est Geoffroy Julien Kouaou, juriste et analyste politique. Le discours du chef de l'État à la Nation le 18 juin prochain devant les députés et sénateurs unis en congrès, selon lui, pourrait porter sur des sujets actuels comme la cherté de la vie et l'inéligibilité de certains opposants politiques. Concernant aussi le nouvel article 185 du Code pénal récemment adopté par les députés contre lequel ceux de l'opposition sont vent debout. Geoffroy Julien Kouaou répond aux questions de Francis Cassi.
Geoffroy Julien Kouaou, bonjour.
Bonjour Francis Cassi.
Le 18 juin prochain, le président ivoirien s'adresse au Congrès sur l'état de la nation. Que signifie cette expression, l'état de la nation?
Vous savez que depuis l'instauration de la Troisième République, la Constitution a instauré une coutume politique ivoirienne consistant à rapprocher le Parlement de l'exécutif. Et dans ce sens, le président de la République, selon l'article 114 de la Constitution, s'adresse à la nation chaque année, et ce, devant les sénateurs et les députés réunis en congrès. Et donc, c'est une obligation constitutionnelle du président de la République à laquelle nous allons assister le mardi 18 juin prochain.
Quand il s'adresse aux députés et sénateurs réunis ensemble, appelés le congrès, est-ce que ces derniers ont la possibilité de répondre, de lui poser des questions?
En fait, il s'adresse à la nation ivoirienne. Cependant, cette adresse se fait devant les députés et les sénateurs. De ce qui précède, les députés et les sénateurs n'étant pas les premiers destinataires du discours présidentiel, ils ne peuvent pas subséquemment lui poser des questions. Et la Constitution est d'une extrême clarté sur cette problématique.
Donc, quelle est la portée juridique d'un tel discours du président?
Non, ce discours n'a pas de portée juridique, mais une portée politique. En ce sens que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Donc, quel que soit le contenu du message, il n'y a aucune conséquence juridique. Cependant, sur le plan politique, les Ivoiriens attendent beaucoup du discours présidentiel. Rappelez-vous qu'en 2020, lors de son premier exercice en la matière, le président de la République avait annoncé, urbi et orbi, qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Et en 2022, il a profité de cette occasion pour nommer le vice-président de la République, M. Kone Temoko Meile. Et en 2023, il a pris un certain nombre de décisions allant dans le sens de la sécurité de la Côte d'Ivoire.
En général, quel sujet aborde le chef de l'État dans son discours sur l'état de la nation?
Il vient devant la nation à travers ses représentants que sont les députés et les sénateurs pour dire que voilà ce que j'ai fait pendant une année sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Voici ce que je compte faire les mois qui suivent jusqu'à l'année prochaine.
Alors donc, pour le 18 juin, quel est, selon vous, le sujet le plus important ou les sujets les plus importants qu'il doit aborder?
Je pense que le premier sujet, il est d'ordre social. La cherté de la vie, l'inflation, l'augmentation, par exemple, des factures de la CIE et autres. Deuxième question, d'ordre économique, c'est la question de la dette. La Côte d'Ivoire est un pays extrêmement endetté pour l'opposition, moyennement endetté pour l'exécutif. Dans tous les cas, cela fait débat et inquiète la population. Et enfin, sur le plan politique, il ne pourra pas éviter la question de 2025. Quand on sait très bien que les principaux leaders politiques de l'opposition, que sont M. Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et M. Soro Guillaume, pour l'instant, au regard de leur statut pénal, ne pourront pas participer à cette élection, ce qui peut jeter un point d'ombre sur l'organisation de ce scrutin.
Alors, il y a un autre sujet qui, à mon sens, vient s'ajouter aux différents sujets qui pourraient être abordés par le chef de l'État, notamment l'article 185 nouveau qui vient d'être voté par les députés. Il y a un bloc qui est pour, ça a été voté, et puis il y a l'opposition, notamment le PPACI qui est contre cet article, qu'il déclare liberticide. Est-ce que le chef de l'État pourrait en parler?
Tout va dépendre de lui. Il a un pouvoir discrétionnaire. Mais je pense qu'il devrait en parler, puisque aujourd'hui, ça fait débat au niveau du Parlement. Surtout que cette question concerne les libertés fondamentales protégées par la Constitution. C'est un projet de loi qui est aujourd'hui devenu une loi par la volonté des députés. Ce projet de loi est donc d'origine présidentielle. Et donc, il serait le mieux placé pour en donner quelques précisions. jeunes.
Alors pour vous, en tant que juriste et analyste politique, le débat entre l'opposition parlementaire et les députés proches du pouvoir, la loi a été votée. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les jeunes disent que le nouvel article 185, c'est liberticide, notamment l'opposition.
La majorité a tranché. C'est ainsi que fonctionne la démocratie. Mais dans tous les cas de figure, rien n'est encore fait. Parce que tout ce qui concerne, par exemple, la liberté publique peut être déféré devant le Conseil constitutionnel. Donc, les députés, même les associations des droits de l'homme, peuvent, avant sa promulgation, déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel qui, en dernier ressort, va se prononcer. Dans tous les cas de figure, tout ceci montre bien que nous sommes dans une dynamique démocratique et c'est une très bonne chose.
Alors, la démocratie, comme le disait un professeur de droit, c'est la dictature de la majorité. Vous êtes d'accord?
Oui, c'est la dictature de la majorité dans le respect des droits de la minorité. Dans tous les cas, la loi s'applique à tout le monde. Aujourd'hui, ceux qui ont voté cette loi peuvent être demain dans l'opposition. Et on verra. Dans tous les cas de figure, lorsqu'on vote une loi, on doit penser plus à l'intérêt général qu'à l'intérêt égoïste. Parce que la démocratie, par essence, est libérale. Elle repose sur la liberté. Et dans une démocratie, l'un des critères de la vitalité démocratique, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté de penser. C'est la liberté de conscience. C'est la liberté de réunion. La liberté d'action. La liberté d'aller. La liberté de venir. Et toute mesure allant dans le sens de restriction de cette liberté écorne dangereusement la démocratie.
Geoffroy Julien Kouaou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Francis Okassi.
Analyste politique, Geoffroy Julien Kouaou, invité de la rédaction, répondait à Francis Kassi. Fin de ce journal, le rappel de l'essentiel. Découpage électoral, opération de cartographie électorale et mission terrain de cartographie sont faites pour actualiser les lieux d'enrôlement et de vote et n'ont rien à voir avec le découpage électoral. C'est ce qu'a annoncé hier mardi le président de la commission électorale indépendante. 35 organisations de la société civile ont plaidé pour la signature du décret de création de l'Agence nationale de gestion intégrée du littoral lors d'une conférence tenue hier mardi à Abidjan. Fin de ce journal, je serai des vôtres à 15h pour le flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Jean-Mélène Bitti.
Bonjour à tous. Nos tabloïds s'intéressent dans leur grande.